Bonjour, Monsieur Curel.
Bonjour.
Vous êtes présente en Suisse à l'occasion de la 21e édition du Festival du film francophone d'Helvétie, où votre film, TKT, T'inquiète, va être présenté. Donc vous êtes là pour échanger avec le public pour cette présentation dans ce cadre du festival. J'ai entendu que vous étiez inspiré, évidemment c'est un sujet important, le harcèlement scolaire, et là c'est au niveau des adolescents. On en a déjà parlé, mais peut-être des enfants plus jeunes. Là c'est une adolescente, Emma. En fait, vous vous êtes inspirée aussi de ce que vous aviez entendu autour de vous à travers vos enfants.
Oui, je me suis beaucoup inspirée de ce que mes enfants m'ont raconté. Et puis, j'ai interrogé beaucoup d'adolescents qui ont été harcelés, des adolescents qui ont harcelé aussi, des témoins de harcèlement qui n'ont souvent pas agi, des parents aussi d'enfants qui n'ont rien vu. Et de cette grande soupe de témoignages, j'en ai fait... un scénario, mais pas toute seule. Enfin, je l'ai écrit toute seule, mais je me suis aussi librement inspirée d'un roman qui s'appelle « Tout ira bien » d'une autrice belge, Elena Tenas. Et c'est elle qui, dans son livre, utilise cette mécanique du dédoublement qui m'a beaucoup inspirée, pour le coup.
Oui, c'est très troublant parce qu'on se retrouve, on va pas tout déflorer du film, mais on se retrouve aux côtés d'Emma, qui est dans une sorte de no man's land. En même temps, elle réalise ce qui s'est passé, pourquoi elle est là. Et elle voit ses parents qui n'ont pas vu, qui sont totalement démunis. Et j'imagine qu'à travers les témoignages que vous avez récoltés, Solange, il y avait beaucoup de parents démunis qui ont attribué ça à l'adolescence, à des moments un petit peu de mal-être qu'on peut avoir à cette époque difficile où on est dans une transition entre l'enfance, l'âge adulte, et on ne voit pas forcément qu'il y a des appels au secours.
Oui, ça m'a beaucoup marqué de voir qu'en fait, si un enfant a décidé que ses parents ne verraient rien, eh bien, il ne voit rien. Et ça peut être les parents les plus merveilleux du monde, hyper là, hyper attentifs.
Bienveillants.
En fait, ça dépend vraiment de l'enfant. Et ça, c'est un peu flippant. Donc, si votre enfant vous dit t'inquiète, inquiétez-vous.
Et le t'inquiète, justement, le titre, c'est parce que c'est une expression qui est souvent utilisée par les jeunes.
Oui.
Justement, pour évincer, pour pas que les parents soient trop intrusifs, peut-être.
Oui, moi j'ai beaucoup entendu de mes enfants « t'inquiète, maman, t'inquiète, je gère » ou alors quand ils m'envoient des messages « t'es caté » et je m'inquiète en fait. Et puis en écrivant le scénario, je me suis rendu compte en fait que de manière extrêmement naturelle, ce « t'inquiète » arrivait dans les dialogues, et d'où le titre du film, ça ne pouvait pas s'appeler autrement.
À propos du film, il y a cette jeune femme assez... elle incarne, elle porte le film. Elle est bien entourée par deux parents, Stéphane de Groot et Émilie de Ken. Dernier rôle sur grand écran, c'est très émouvant d'ailleurs à ce titre-là, en plus de la thématique. Comment avez-vous choisi vos acteurs, vos actrices? Déjà l'écriture, est-ce que vous avez en tête ces personnes?
Alors Lana de Palma, il se fait que c'est une amie de ma fille Nina. Et quand j'organisais le casting de TKT, Nina m'a dit « Mais maman, cherche pas, je suis sûre que Emma, c'est Lana. » Donc j'ai appelé Lana, je lui ai demandé si elle voulait passer le casting, elle m'a dit oui. Et Nina avait raison, cette jeune fille était absolument remarquable. Et puis Stéphane de Groot et Émilie de Ken, je voulais des très 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 bons acteurs. Et tout naturellement, ben, pour la maman, j'ai pensé à Émilie de Ken. Il fallait vraiment une actrice extraordinaire pour porter le rôle, parce que c'est un rôle très difficile. Quand vous allez voir le film, vous allez comprendre pourquoi c'est vraiment un rôle difficile à jouer. Et Émilie m'a tout de suite dit oui. Et Stéphane, je l'avais vu dans Le Jeu, où il incarnait un papa poule, je trouvais extraordinaire. Je me suis dit, ah, si un jour j'ai besoin d'un papa poule, je ferai appel à lui. Et j'ai eu la chance que tous les deux, sans hésiter, me disent oui.
Que ce soit Stéphane ou Émilie, ils sont les deux aussi très expressifs dans le non-verbal, dans les regards, dans juste l'expression du visage.
Bah, c'est des très bons comédiens. C'est justement là le propre des bons comédiens, c'est qu'ils peuvent tout faire passer avec un regard, avec un geste. Et c'est, voilà, ils ont été très généreux sur le plateau, tous les deux. Émilie, c'était une vraie maman pour Lana, elle l'a vraiment prise sous son aile. C'est aussi difficile pour une jeune qui n'a jamais fait de cinéma de se retrouver sur un plateau avec deux acteurs comme ça. Et ils ont été super avec elle, tous les deux.
Et une question indiscrète, Solange, vous n'aviez pas songé à votre fille pour être dans le film?
Non, pas du tout. Ma fille fait le droit. Et non, elle ne voulait absolument pas être comédienne dans mon film. On veut garder de très bons rapports toutes les deux. Il vaut mieux que je la dirige pas.
Donc t'inquiète, je serai pas dans ton film, maman. Voilà. Pour revenir aussi à votre film, vous avez choisi une photographie particulière, une luminosité particulière, les images. Comment avez-vous souhaité travailler sur cette dimension ?
Alors je voulais un film lumineux, je voulais un film populaire et je voulais un film jeune. Souvent quand on parle de harcèlement, on se dit « Ouh, ça va être un film triste, gris, linéaire. » On a l'impression en fait qu'on connaît l'histoire avant même d'aller voir le film. Et moi je voulais casser tous ces codes. Je me suis dit « on va aller complètement dans, ce qu'on nous a, dans quelque chose qu'on n'attend pas. » Et donc TKT c'est avant tout un film qui parle aux jeunes, qui raconte ce qui leur arrive au lycée, les amitiés toxiques, les amours, les profs, et puis petit à petit se greffe sur tout ça le harcèlement, le cyberharcèlement, mais ça parle d'eux. Et la jeunesse, elle est pas triste, elle est plutôt joyeuse quand tout va bien.
Alors seulement justement, je rebondis sur vos propos, quand tout va bien. Au début, on voit Emma avec ses amis, bon, un peu critiquée par une en particulier sur sa tenue vestimentaire qui fait un peu vieille. Évidemment, c'est à sa mère. Et cette copine, elle est très justement toxique, toujours à faire des réflexions, puis après dire « Ah, mais c'est bon, je suis désolée, je m'excuse, voilà. » Et c'est presque la meneuse. On va voir petit à petit qu'elle est bien ambivalente. Et les parents ne voient pas parce qu'ils imaginent que c'est la meilleure amie.
En fait, ce qui m'a beaucoup marqué dans mes interviews avec les ados, c'est la dynamique dans les groupes de filles. Avec la meneuse, celle qui a un peu peur, celle qui a plus envie et qui se rebelle.
La jalouse.
Enfin, y a toute une dynamique assez complexe. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on interroge chacun des protagonistes de ce groupe, on se rend compte en fait que tout le monde a raison et personne n'a raison. Donc évidemment, celle à qui on dit « ton poncho est moche », elle dit « mais de quoi elle se mêle ?» Et celle qui lui dit « ton poncho est moche », quand on l'interroge, elle dit « mais en fait, je vois pas où est le problème, je suis quand même une amie, c'est quand même hyper normal de dire à ses amis quand elles sont mal habillées, que tout le monde se moque d'elles. » Et donc elle est de bonne foi, et vraiment de bonne foi, elle dit « mais enfin, je comprends pas le problème. » Et donc c'est de l'éducation, il faut les éduquer en disant « mais tu as raison, en fait, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'il ne faut pas le dire devant tout le monde. Si tu as envie de dire un truc à ton ami, tu la prends entre quatre yeux. » Et c'est toutes des petites choses comme ça qui sont insidieuses et qui blessent, en fait.
Qui blessent ou qui peuvent faire plus. On voit dans le cas d'Emma, petit à petit, elle est ostracisée, elle est stigmatisée. Entre autres, avec une première vidéo qui est faite à son insu. Ah, on ne doit pas dire. Et bon, très bien, je me tais. Et mais à culpa. Et on voit aussi l'importance quand même de la téléphonie. Ils sont ultra connectés. Ça, ma génération, la vôtre, on n'avait pas ça à ce point-là. En tout cas, nous, on pouvait rentrer à la maison. On était épargnés. Si on était harcelés en milieu scolaire, à la maison, on avait un moment de répit. Cette génération, ils n'ont plus jamais de répit.
Non, ils n'ont pas de répit. Et je crois que c'est extrêmement dur pour cette génération-là. C'est pour ça qu'il faut éduquer. On me demande souvent ce que je pense des réseaux sociaux et je dis bah c'est le mieux, c'est le meilleur et le moins bon à la fois.
Le pire.
Oui, parce que c'est super quand on l'utilise bien et voilà, c'est une source de connaissances, de sociabilisation, d'information. Mais aujourd'hui, il faut vraiment éduquer les jeunes à l'utilisation responsable de ces réseaux sociaux. Il faut leur expliquer qu'on peut pas tout faire et qu'il y a une personne, en fait, derrière un message que vous allez envoyer. Et voilà, je pense que c'est très, très important de faire passer ce type de message.
C'est un peu le monstre du Mykonos, parce que la téléphonie, on a vu arriver ça avec les avantages, justement, la facilité d'être en communication, par exemple, avec les proches qui sont sur un autre continent, de réserver un vol, de réserver un billet facilement. Et on n'a pas anticipé, justement, soit les nuisances, soit les risques. Maintenant, il y a des mouvements, je ne sais pas si pour la Belgique c'est le cas, en Suisse, en France, où les enseignants demandent que les téléphones soient restés à l'extérieur, ou en tout cas sur le bureau de l'enseignant, le temps des cours, parce qu'on voit que malheureusement, c'est trop dangereux.
Alors en Belgique, depuis cette année, les téléphones n'entrent plus dans les écoles. Donc Les enfants entrent à l'école, mettent le téléphone dans le casier, n'ont pas le droit de le sortir jusqu'à la fin des cours. Et après une petite vague de protestations l'année dernière en disant « Ouh, qu'est-ce qui va nous arriver ?», il semblerait que tout se passe très très bien dans les écoles et que ça leur donne un peu de répit en fait. C'est bien de rester quelques heures par jour sans son téléphone et d'être juste concentré sur ce qu'on fait. Alors j'ai entendu un autre mouvement qui est des jeunes en fait renoncent au smartphone pour revenir au téléphone classique, donc ils peuvent juste recevoir des appels, en donner, envoyer des messages, mais c'est tout. Pas mal aussi.
C'est pas mal aussi, déjà pour le repos du cerveau. Tout à l'heure, Solange, vous avez mentionné les enseignants. Il semblerait que les enseignants soient aussi dépassés ou ne soient pas forcément réceptifs à certains signes. Est-ce que là aussi, il y a une prise de conscience du côté du corps enseignant ?
Alors moi, entre le moment où j'ai écrit le film, donc il y a 4-5 ans, et maintenant, je trouve qu'ils ont fait un bond géant. Il y a une vraie prise de conscience, une vraie envie de régler ce problème. Et ça, je trouve ça formidable. Maintenant, il faut... Si on se met un peu dans la peau des enseignants, je trouve qu'on leur demande beaucoup de choses. Hein. C'est très difficile d'être enseignant de nos jours. On vous demande évidemment d'enseigner, mais on vous demande aussi d'être psychologue, d'être référent harcèlement, de régler les conflits dans l'école. Enfin, plein de choses qui ne sont pas vraiment leur rôle. Donc, je suis très admirative des enseignants qui acceptent ces rôles, notamment de référent harcèlement, qui se forment et qui aident énormément les jeunes dans les lycées.
Solange, peut-être vous savez de qui je parle, moi je n'ai pas retrouvé son nom. Il y a un père de famille dont la fille aînée s'est suicidée à 14 ans en Belgique, qui a commencé à être sur les plateaux de télévision pour sensibiliser et les familles et les enseignants. Et petit à petit, il y a beaucoup de parents concernés qui ont perdu un enfant, qui s'est retrouvé dans la seule issue que de quitter la vie pour ne plus supporter ce harcèlement. En France, en Suisse, en Belgique. J'imagine que votre film, il a aussi un but de sensibilisation, un but thérapeutique, presque.
Alors, le film, en Belgique et en France, est accompagné d'un dossier pédagogique pour les enseignants et d'une capsule pédagogique pour les enseignants. Donc, en Belgique comme en France, on a un site dédié qui s'appelle tktseansscolaire.fr ou .be en Belgique. Donc, les enseignants nous demandent le lien du film, voient le film, si le film les a convaincus, ils emmènent leur classe dans un cinéma de proximité, et puis ils vont recevoir la capsule et le dossier pédagogique. Et, parce que pour moi, c'était plus qu'un film, hein, c'était vraiment un combat à force d'interroger ses enfants, ses parents. Évidemment, j'ai vu l'ampleur du phénomène et j'étais... J'étais terrifiée au départ, mais là, à la fin de mes interviews, je me suis dit ça. Il faut aller au-delà du film. Il faut vraiment en faire un combat pédagogique.
Et justement, à propos de combat pédagogique, il y a le public premier, ce sont vos enfants. Comment ont-ils vécu le travail abouti quand ils ont vu le film ?
Bah alors là, je vais un peu avoir l'air de me vanter, mais moi, mes enfants, ils adorent le film. Ils sont vraiment... Ils étaient très fiers du film, très fiers du résultat. Bon, ils ont beaucoup, beaucoup aussi contribué. Mon fils a été très présent pour le montage, pour la musique. Ma fille, extrêmement présente pour le scénario. D'ailleurs, ils sont tous les deux crédités au générique de fin. Donc, ils sont fiers de ce qu'on a fait ensemble.
Vous mentionnez la musique. Vous avez choisi une musique qui parle à la jeune génération, évidemment.
Oui, j'ai eu un formidable musicien qui s'appelle Rémi Lebos et qui m'a fait vraiment une musique hyper jeune, très électro parfois, très douce parfois. Enfin, je trouve que la musique est extrêmement, extrêmement réussie. Et c'était très important, en fait, la musique dans un film, surtout un film qui parle aux jeunes et un film qui doit être rythmé, qui va vite. Donc il avait beaucoup, beaucoup de challenges et je trouve qu'il les a vraiment réussis.
Oui, puis une musique générationnelle.
J'espère. J'espère.
Du moins, celle qui connaissait la téléphonie murale avec le cadran à tourner a trouvé qu'elle était générationnelle. Par rapport à TKT, vous avez, d'après ce que j'ai lu, le film est sorti en Belgique avant la Suisse, bien évidemment. Et vous avez pu rencontrer des jeunes lors des présentations. quelle était leur réaction.
Alors, ce qui est formidable, c'est la libération de la parole. C'est vraiment ce que je voulais. D'ailleurs, à la fin du film, il y a un carton qui dit « Si vous êtes victime ou témoin, parlez ». Et il y a une véritable libération de la parole après ces séances. Des jeunes qui prennent la parole en disant je suis un harceleur, je m'en étais jamais rendu compte parce qu'il m'est arrivé des dizaines de fois d'envoyer des messages, des blagues. Et j'ai jamais pensé à la portée, en fait, de ces blagues. Donc, c'était extrêmement émouvant pour moi, extrêmement touchant. Et je me suis dit que... Voilà, on me dit souvent que le film est d'utilité publique. Et je crois que c'est le plus beau compliment qu'on puisse faire à un film.
Et puis vous parlez des éléments harceleurs qui ne s'en rendent pas compte. Votre film, en ce sens, est une sorte de révélateur pour ces personnes qui prennent conscience que leurs messages, leurs blagues ont un impact beaucoup plus grand qu'ils n'imaginent.
Moi, ce que je voulais, c'était vraiment faire un film systémique qui montre un système et qui le décortique. C'est pour ça que c'était important aussi de faire un film qui n'est pas linéaire, où on passe d'un événement à un autre, qu'on comprenne vraiment comment les choses se sont déroulées. Et je pense qu'ils l'ont vraiment compris après avoir vu TKT. Ils comprennent le système et ils comprennent qu'ils font partie de ce système et qu'ils sont aussi, du coup, le moteur pour l'arrêter. Ils peuvent arrêter, les jeunes peuvent arrêter le harcèlement. Ils ont ce pouvoir et il faut qu'ils prennent ce pouvoir. Et ils le prendront quand ils auront compris exactement la mécanique et ce qu'on peut faire et pas faire, je pense.
Vous parliez justement d'une prise de pouvoir. Il y a aussi un effet de groupe, une appartenance à un groupe qui fait qu'on harcèle une personne. Et après, on se sent peut-être plus fort parce qu'on est plusieurs contre cette personne.
Oui, eh ben, l'effet de groupe doit être le même. On se sentira très fort quand on aura la possibilité d'être en groupe et de dire « Ah ben non, là, on n'est pas d'accord ». Si le groupe peut se taire, en fait, le groupe peut parler aussi. Mmh. Et le groupe est tout aussi fort quand il dit non que quand il dit oui. Et ça, ils n'ont pas encore compris. Mais ils vont comprendre.
Et ce que les jeunes n'ont pas compris, c'est que même s'ils effacent tout sur leur téléphone, qu'ils réinitialisent, on peut retrouver des choses. Il y a une importante figure qu'on voit de manière ponctuelle, c'est l'enquêtrice dans votre film.
Oui, on peut retrouver des choses. Alors, j'imagine qu'en Suisse, c'est comme en France et en Belgique, il y a... des possibilités de faire effacer, notamment si vous avez envoyé une image à caractère intime et que vous voulez la faire effacer, il y a une possibilité de le faire, de contacter des numéros, d'envoyer la photo, d'expliquer, et on peut rentrer dans les réseaux et faire effacer la photo. Alors évidemment, on ne peut pas rentrer dans les téléphones des gens, mais chaque fois que cette photo réapparaîtra, elle sera automatiquement effacée. Et en tout cas, en France, avec le 30-18, ça s'est fait pratiquement dans l'heure. J'imagine qu'en Suisse, vous devez avoir quelque chose qui ressemble à ce système-là.
Mais ça reste encore un combat pour l'obtenir. C'est assez difficile.
En France, pas du tout.
Pas du tout.
Ah, en France, vraiment, c'est un coup
de
fil. Il
y a du progrès.
Ah oui, en France, vous appelez le 30-18 et c'est effacé dans l'heure.
Est-ce qu'on peut demander quel a été le sentiment de votre actrice, la jeune Lana, qui interprète Emma, à la fin du tournage? Est-ce que ça a changé aussi sa vision des choses? Est-ce qu'il y avait une charge émotionnelle pour elle? Parce que c'est pas facile comme rôle non plus.
Alors Lana, quand on a tourné le film, elle avait 18 ans, donc elle était encore assez proche du personnage. Et c'est ce qu'elle dit en interview. Elle dit que, évidemment, elle avait... elle comprenait le phénomène, elle comprenait ce qu'était le harcèlement, mais pas l'ampleur, pas... ça l'a encore plus... donner des clés, des armes pour le comprendre, pour en être une ambassadrice. Et après le tournage, ce qu'il y a, c'est qu'on avait tellement préparé le film en amont que toutes les émotions qu'elle pouvait avoir, elle les avait eues en amont. On avait énormément parlé du personnage, de ce qui se passe, du pourquoi. Donc je pense qu'évidemment il y a une charge émotionnelle pendant le tournage, mais je pense avait été vraiment très 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 travaillée en amont pour qu'elle en sorte indemne.
Solange, je vous avais mentionné Émilie et Stéphane. Là, Lana, c'était ses premiers pas devant la caméra. Comment avez-vous procédé pour la direction?
Alors comme on avait un tournage extrêmement court de 23 jours, et que c'était la première fois que Lana jouait au cinéma, quand je lui ai proposé le rôle et je lui ai dit, écoute Lana, j'aimerais bien te choisir, mais c'est à une condition, c'est que tu acceptes de travailler énormément avec moi en amont. Donc il va y avoir 3 mois de préparation, tu vas venir toutes les semaines à la maison en connaissant le texte que je te demanderai de connaître. Et puis on va s'entraîner toutes les deux. Je lui dis, mais c'est un énorme travail pour toi, mais c'est un énorme travail pour moi aussi. Donc, et elle l'a accepté et elle est venue toutes les semaines. Et on a fait plein d'exercices, on a revu tous les dialogues ensemble. D'ailleurs, j'ai fait la même chose avec les 3 autres protagonistes principales. Et puis Lana a eu un coach d'intimité aussi pour vraiment chorégraphier toutes les scènes intimes. La même coach lui a appris aussi à s'énerver, parce que c'est très très difficile hein, quand on dit action, de commencer à pleurer, à crier, c'est pas facile, il faut se mettre en condition. Donc tout ça, elle l'a appris en amont, et quand elle est arrivée sur le tournage, elle était prête. Donc au premier action, je l'ai vue, elle tremblait un peu, mais elle a tout donné, elle a été plus que formidable.
Solange, là vous êtes présente, comme je disais en début d'entretien, pour le festival du film francophone d'Helvétie à Bienne. Le film TKT a déjà eu une expérience dans les festivals. Ça va se poursuivre ?
Ah ben j'espère. C'est toujours génial, je trouve, d'aller en festival et de rencontrer le public.
D'avoir sa réaction immédiate.
Oui. Ah oui, oui. Moi, je suis toujours très, très émue après une projection.
Et par rapport au public suisse, vous avez déjà une expérience ?
Ah bah non, c'est ma première
c'est
projection.
C'est votre baptême ?
C'est mon baptême suisse.
C'est vos premiers pas en Helvétie.
Oui, tout à fait.
Et là, vous accompagnez donc TKT. J'imagine que ça a été, comme vous dites, 4-5 ans de travail. Est-ce que vous arrivez déjà à penser à de l'écriture ?
Alors, je suis en pleine écriture, mais alors cette fois-ci d'une comédie. Puisque moi, je viens de la comédie, j'avais fait 2 comédies avant TKT. Et voilà, après autant d'années à porter ce combat... Je serais contente de revenir à de la comédie.
Avec la comédie, on peut dire des choses très sérieuses.
Ah ben la comédie, c'est du drame poussé à l'excès qui fait rire.
Et puis on pense par exemple au cinéma italien, sous la forme de comédie, on peut même faire des choses dramatiques.
Absolument, absolument. La comédie permet tout, ce qui est merveilleux.
Et Solange, par rapport à votre parcours, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont vos mentors cinématographiques, cinéastes, même comédiennes, comédiens?
Alors, c'est drôle parce que, en fait, moi, quand j'étais jeune, ce qui m'a donné envie, c'était le théâtre. Avec ma maman, on regardait beaucoup, beaucoup de pièces de théâtre. Et donc, j'étais absolument fascinée par ce qui pouvait se passer sur une scène et juste avec des dialogues. Et puis, j'ai commencé à m'intéresser au cinéma. Je pense que le premier film qui m'a bouleversée, ça devait être un E.T. de Steven Spielberg.
1981.
Ouais. Et j'étais petite et j'ai vu ce film et je me suis dit, mais c'est un monde fantastique, j'adore ça. Et puis, à l'époque, tous les Deux Funès, alors toutes les comédies romantiques, La Boom, Dirty Dancing, moi j'étais très 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 film comme ça, de comédie musicale, grise, j'adorais ça. Et puis c'est plutôt en vieillissant que j'ai commencé à m'intéresser plus au cinéma d'auteur, au cinéma plus pointu. Mais mes premières amours, ce sera toujours ce cinéma-là. Moi, dès qu'il y a un Bridget Jones ou un Notting Hill, un Love Actually ou un truc dans le genre qui sort, je suis la première au cinéma. J'adore ça.
Et entre les casquettes de scénariste, de réalisatrice, vous avez des préférences ?
C'est très différent. Non, c'est 2 exercices différents. J'aime les deux. Vraiment, j'aime les deux. Scénariste, on est plus dans sa bulle. Réalisateur, il y a une équipe. On ne fait pas un film toute seule. Hein, donc, c'est un film, c'est une énorme équipe. Et moi, j'ai la chance d'avoir une super équipe.
Et là, vous étiez bien entourée. On vous souhaite un bon séjour au Festival de Bienne. Un bon séjour en Helvétie. Vous allez goûter le chocolat, hein, même s'il n'est pas aussi bon que le belge, j'imagine.
Mais je goûterai avec un énorme plaisir le chocolat. J'adore le chocolat. Je suis sûre qu'il est délicieux.
Merci Solange et bon succès à TKT.
Merci.
Et surtout, beaucoup d'émulation, de discussion autour de ce film et du sujet délicat qu'il aborde.
Merci beaucoup à vous.
Merci, Solange.